Nous allons reprendre l'étude des sept lettres, et ce matin, ce sera la lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, chapitre 2 de l'Apocalypse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Amen.
C'est une lettre d'une importance première. Grande importance, cette lettre. N'oublions pas que c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Le Seigneur Jésus glorifié, tête du corps, chef de l'Église, qui est son corps. Et le texte original, le grec, est très limpide, il n'y a là aucune difficulté textuelle. Par conséquent, toutes les versions traduisent la même chose, là, il n'y a pas d'hésitation sur certaines expressions ou certains mots. Par conséquent, il y a quelque chose de clair que Jésus dit à son Église, et c'est très grave. C'est très grave. Excessivement grave. C'est malheureusement ce que les chrétiens, et on peut dire aussi les Églises, ont oublié le plus. Alors, prenons bien garde à ce que nous dit ici le Seigneur. La ville d'Éphèse était une ville de Lydie, la région, province de Lydie, au bord de la mer Égée, vis-à-vis de la Grèce. Elle était la plus peuplée de la région. À l'époque, elle avait 250 000 habitants au moins. C'était le carrefour des relations entre l'Orient et l'Occident. Elle était le siège administratif du proconsul romain, non pas sa résidence, mais le siège administratif, chef-lieu de l'Asie. Et l'empereur Auguste, dont j'ai parlé hier, y vint quatre fois pour le moins. C'est là que s'éleva d'ailleurs le premier temple du culte impérial, appelé l'Augusteum, puisque Auguste s'était donné pour être le sauveur du monde. Et ce temple se trouvait situé à côté du temple dont parle le livre des Actes, temple de Diane, c'est-à-dire d'Artémis. Voyons maintenant l'Église. Paul y était resté 2 ans et 3 mois lors de son troisième voyage missionnaire. Il avait laissé Timothée à Éphèse pour empêcher l'enseignement des fausses doctrines. L'Église d'Éphèse, à laquelle, vous le savez, Paul a adressé une de ses épîtres, était connue pour sa foi et sa charité. La lettre, l'épître d'Éphèse, à l'église d'Éphèse, est une des épîtres les plus magnifiques du Nouveau Testament. chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Donc, Paul a entendu parler de la foi de cette Église et de son amour. L'épître de laquelle je viens de lire ce verset est de l'an 62, pense-t-on, ce n'est pas absolument absolu, mais enfin, il y a erreur, elle est petite, de l'an 62, on peut la situer en l'an 62. Et au moment de la lettre de l'Apocalypse, celle qui nous intéresse maintenant, celle du Seigneur Jésus, il s'est écoulé plus de 30 ans. Si bien que des changements, bien sûr, sont survenus dans cette Église. Il y a 30 ans qui nous séparent de la situation qui était celle de l'Épître de Paul. Cependant, cette Église a conservé de réelles vertus chrétiennes, elle a de la persévérance, elle ne s'est point lassée, malgré les épreuves, les souffrances, les persécutions, elle a conservé un profond discernement. Comme nous le dit le verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. » Vous voyez, le discernement est là. Mais attention, nous allons le voir. Le Seigneur Jésus commence par ses paroles d'approbation, de satisfaction, en somme, mais c'est pour mieux encore. Bien sûr, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais cela va mettre mieux encore en relief le grand grief que le Seigneur va formuler. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, dit le Seigneur. Je connais, c'est-à-dire, dit le Seigneur. Je connais, c'est-à-dire, c'est ça que je prends en compte, j'ai pris en compte cela. La foi de l'Église, ne l'oublions pas, est toujours évaluée par les œuvres qui la manifestent. Les œuvres, les bonnes œuvres, puisque le terme est scripturaire, les bonnes œuvres sont des œuvres de la foi, non pas des œuvres païennes, non pas des œuvres faites dans l'indifférence ou l'ignorance, mais les œuvres de ceux qui sont passés par une authentique conversion. Et rien n'échappe au Seigneur de l'Église. Il sonde, il voit profond, il constate la vérité quelle qu'elle soit. La vérité quelle qu'elle soit. Pas de mots, pas de phrases, pas de flatterie, bien entendu. La vérité, il la voit telle qu'elle est et il la dit telle qu'elle est. Il juge naturellement juste et net. Ce serait à peine besoin de le souligner, mais si nous le soulignons, c'est en faveur des termes qui sont ici. Tout est juste et net. Et cela, bien sûr, tant pour l'Église locale que pour chacun de ses membres. La réalité de la foi se voit dans les œuvres, que nous le sachions bien. Ton travail, qu'est-ce que le Seigneur entend par travail ici? Ton travail, et c'est le terme, je vous ai dit, les termes ne peuvent pas être traduits autrement, sont des termes précis. Ton travail. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 et 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Alors, ce travail est un travail qui va se faire uniquement comme résultat de la foi, comme produit de la foi. Et il consistera en effort constant pour la propagation de l'Évangile et pour la défense de l'Évangile. Ce qui est un des rôles de l'Église, défendre l'Évangile tel qu'il est, pas un autre Évangile, mais cet Évangile-là, le défendre. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, dit l'apôtre Paul. Ta persévérance, le mot peut se traduire par patience. Alors là, les traducteurs emploient l'un ou l'autre terme, patience ou persévérance. Mais c'est la même chose, le verset 3 en développe la nature. Le verset 3 dit « Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Voilà cette persévérance que note le Seigneur. « Tu ne peux supporter les méchants, c'est-à-dire tu ne peux tolérer leur action et tu mets un arrêt à leur tentative de destruction interne. » Tu mets un arrêt. Nous avons là aussi des correspondances à faire valoir dans 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous voyez que, par conséquent, cette Église était tout à fait dans son rôle de ne pas supporter les méchants, de les reconnaître et de mettre fin à leur pernicieuse activité. Dans Éphésiens chapitre 5 et verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il faut mettre fin à ces vains discours. C'est un des rôles de l'Église. L'Église a ce rôle. Il ne faut pas, comme par erreur on le suggérait l'année dernière, il ne faut pas dire, oh bien, le Seigneur se chargera de mettre de l'ordre. Alors, si on pense comme ça, eh bien, on est en conflit avec la parole de Dieu. Parce que Dieu charge l'Église d'une discipline en son milieu. Et cette discipline n'est pas de faire mourir les gens, bien sûr, à moins que le Seigneur ne le fasse, comme Ananias et Saphira, mais la discipline consiste à mettre fin, mettre un terme, et ça nous le verrons dans une autre lettre, l'Église est responsable de toute hérésie ou de toute action nuisible qui s'opère en son sein. Elle doit mettre un terme et se débarrasser au besoin de ceux qui n'entendent pas raison et ne se repentent pas. Alors, sur ce plan-là, n'est-ce pas, le Seigneur manifeste sa satisfaction. Éphèse a su user d'un bon discernement, elle ne s'est pas laissée corrompre. Des faux apôtres, c'était des faux apôtres, vous voyez jusqu'où ça allait, s'étaient introduits en son sein. Elle a bien vite découvert le fond trompeur et mensonger de leurs paroles et de leur vie, et de leur vie. Elle a su les éprouver par la pierre de touche de la parole de Dieu. Tout cela est fort bien. Les dangereux et subtils adversaires venus à Éphèse étaient surtout des Nicolaïtes. Ils étaient surtout des Nicolaïtes. Ils se manifestaient par des œuvres haïssables et pernicieuses. Verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, des œuvres donc qui étaient haïssables. Nous ne savons pas très bien ce qu'étaient ces Nicolaïtes, on en a une petite idée, mais on n'a pas dans l'histoire de renseignements précis sur cette secte. Naturellement, ces gens-là étaient en rapport avec une doctrine déviée, altérée. Cela va de soi. Très probablement, ils tentaient d'infléchir l'évangile à l'avantage de la chair. C'est un petit peu le mode de beaucoup de tendances, infléchir l'évangile en faveur de l'homme, de la chair. Devant ces dangers, l'église d'Éphèse avait fait preuve d'un esprit clair et vigilant, et elle avait réussi à s'en préserver. Alors nous arrivons maintenant au cœur de la lettre, c'est-à-dire au premier amour. Verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà la chose grave. Avec ses œuvres, son travail, sa persévérance, sa vigilance, cette Église n'est-elle pas le bon modèle? Si rien ne nous était dit, si la lettre s'arrêtait à la fin du verset 3, alors nous dirions, mais c'est l'Église modèle. Non, dit le Seigneur, non, tu n'es pas l'Église modèle. Car j'ai contre toi un grief très grave. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Non pas tout amour, non pas tout amour, mais le premier amour. Il y avait encore de l'amour dans cette église, dans les membres de cette église. Mais pas le premier amour. Et ça, le Seigneur le juge très grave. Alors, essayons de comprendre ce qu'est ce premier amour. Eh bien, ce premier amour était fait de l'ardeur intime et puissante qui avait envahi l'âme de ces chrétiens dès le moment de la conversion. Et ça reste toujours cela. Le premier amour, c'est cette ardeur intime qui envahit notre âme dès la conversion. Ardeur dans la joie et dans une complète disponibilité pour Jésus-Christ. On ferait pour lui n'importe quoi à ce moment-là. C'était, bien sûr, ce moment de la conversion, ce moment du premier amour, c'était la découverte de l'amour divin, si magnifique, si grand. On le découvrait, cet amour. Et la foi du cœur bondissait du puissant besoin d'aimer Dieu en Jésus-Christ, comme on se sentait aimé de Dieu. Le besoin d'aimer, de répondre à cet amour de Dieu, de tout faire pour lui plaire et d'être là tout de suite, tout près de sa personne pour ne plus le quitter, pour vivre vraiment la même vie que lui, sa vie sainte. Le premier amour, c'était l'afflux en soi d'une lumière porteuse de vie et de bonheur, d'un bonheur parfait que l'on avait saisi à plein bras. C'était toute la nouveauté, toute la fraîcheur d'un attachement à Dieu, à une personne réelle, une personne humaine autant que divine, un attachement libre. On se sentait libre dans cet attachement. C'était un attachement de tout l'être. Il n'était pas question d'autre chose que cet attachement. Un attachement soudain, devenu possible, réel, à une personne présente, bien présente, tout près de soi. Dieu était venu. C'était vrai. C'était magnifique. Un Dieu n'ayant rien abandonné de son immense grandeur et pourtant non redoutable. Un Dieu entré dans la dimension humaine avec sa douceur, sa bonté, son amour à lui. L'amour parfait bannit la crainte, dit l'Écriture. C'était vrai cela. C'était réalisé. Et un univers nouveau, le ciel même, venait de s'ouvrir. Tu as abandonné ton premier amour. Tout est retombé, hélas. Tout s'est refroidi. Et c'est dans cet amour-là, pourtant, qu'était une force inépuisable. Invincible. Pourquoi faut-il maintenant qu'on en parle au passé? Tu as abandonné ton premier amour, c'est fini. Il est passé, ce premier amour. Il s'est envolé. Tu ne l'as pas gardé, nous pourrions dire pour nous. Nous ne l'avons pas gardé alors que nous l'aurions pu. Car le grief fait à Éphèse nous atteint, nous aussi. L'église d'Éphèse avait cessé de vivre et de servir son Dieu par la seule impulsion d'une force toujours nouvelle et de parfaite essence spirituelle. Elle avait cessé cela. C'est grave. Alors nous entrevoyons comment le Seigneur veut l'Église. Comment il veut les membres de l'Église. Soulevés par ce premier amour. Il les veut toujours soulever par ce premier amour. Les conséquences de cette chute sont graves. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et le terme grec évoque une déchéance. Une déchéance. L'abandon de ce premier amour a été une déchéance, une véritable déchéance. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, de quelle merveilleuse élévation tu es tombé. C'est une chute à partir d'un point élevé, d'un point très élevé jusqu'à un point très bas, très bas. Tu es tombé du ciel sur la terre. Tu étais au ciel. Tu étais assis avec moi, peut nous dire le Maître, dans les lieux célestes, et tu es revenu sur la terre. Tu es tombé. Repens-toi pour se relever de cette déchéance. La seule voie est celle de la repentance. D'abord, se souvenir, se rappeler ce qu'était le temps de ce premier amour, ce qu'était ce cœur tout nouveau, changé, un cœur où le Seigneur Jésus était présent, était libre, un cœur qui était lié au sien. Souviens-toi, rappelle-toi, essaie de te remémorer ce que tu as été. Lors de ce premier amour, ce souvenir puisse s'humilier dans le sentiment d'un douloureux regret. Ensuite, vouloir, par une foi renouvelée, revenir à la position perdu et le demander à Dieu instamment. Il faut alors accepter vraiment un changement d'esprit et de cœur. Il faut revenir à cet esprit du début, à ce cœur tout rempli, tout illuminé, tout pétri de l'amour divin du début. Il y a donc un retour, il y a une voie de retour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Les œuvres du moment, celles dont le Seigneur parle au début de l'épître, de la lettre, les œuvres du moment sont donc des œuvres secondes. Reviens, pratique tes premières œuvres. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc les œuvres actuelles sont des œuvres secondes. Que le Seigneur n'aime pas, que le Seigneur ne juge pas bonnes. Pourquoi? Eh bien, le Seigneur voit une grande différence entre les premières œuvres, celle des premiers moments de la conversion, celle de l'Église naissante, celle du premier amour, et les secondes œuvres, celle de l'époque de cette lettre, celle d'une Église qui est stabilisée, établie, mais qui est surtout sur la terre, et fort peu dans le ciel. Ces secondes œuvres ne sont plus que quelque chose qui ressemble à une inertie qui se dépense et qui va finir par s'épuiser, ou qui ressemble à un mouvement qui n'a plus sa force d'entretien. L'Église en est venue, à ce moment des secondes œuvres, à n'être que morale, à n'être que rigoureuse sur la doctrine. Elle l'est. Elle est rigoureuse sur la doctrine. Mais ses œuvres actuelles ont cessé de refléter et de contenir l'amour divin. Ont cessé de refléter et de contenir l'amour divin. Et nous arrivons à cette situation que l'apôtre Paul nous décrit dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, là voilà la charité au sens propre du mot. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Voilà la situation. La voilà la situation. Elle est tragique. Une Église qui n'a plus l'amour divin en elle, dans les cœurs. Alors, cette Église, elle est morale. Elle fait de la doctrine, mais elle a cessé de refléter le con et de contenir l'amour divin. Elle est devenue une Église institutionnelle. Les premières œuvres étaient le fruit du premier amour, amour vraiment spirituel, puissance spirituelle à l'œuvre. C'était vraiment Dieu, c'était vraiment Jésus qui accomplissait ses œuvres par les membres de l'Église. Il était vraiment la tête. Et l'Église était les membres. Oui, c'était l'amour même de Dieu qui passait à travers des hommes en plein zèle de cœur et qui apparaissaient en forme d'œuvre portant le fruit éternel, le fruit éternel, ce fruit qui seul demeure pour la vie éternelle. Et rappelons-nous ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 6. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Si le Fils de l'homme ne donne cette possibilité de travailler, cette puissance, ce ressort, cette destination du vrai travail, il n'y aura rien qui subsistera pour la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme, qui a été marqué du sceau de Dieu, donne. Et il faut que l'Église reçoive constamment de lui. Les œuvres qui sont faites en dehors de cet amour premier sont sans force et sans valeur. Ce sont des œuvres en soi. Bien sûr, on peut toujours dire, mais elles soulagent peut-être des misères, elles font un bien momentané. Oui, cela est tout à fait plausible. Mais elle, rien n'en subsiste pour la vie éternelle, et ce n'est pas ce qui peut plaire à Dieu. Dieu ne veut pas, n'a pas créé l'Église pour panser les petites plaies, les plaies petites ou grandes, du moment de l'existence éphémère. Alors, tout cela aboutirait à quoi ? Eh bien, un peu plus de soulagement, mais de tout sens, à sombrer dans la mort. Mais le Seigneur, ce n'est pas cela qu'il a voulu. S'il vraiment guérit les plaies de l'existence présente, c'est après, essentiellement, avoir placé ses enfants dans la voie qui mène à l'éternité. Les œuvres, donc, sont des œuvres en soi, les œuvres secondes, des œuvres commandées par la discipline du devoir, des œuvres que l'on accomplit parce qu'il faut en faire. On évite le vide des œuvres. Ah, le vide, c'est une chose qui serait certes saisissante, ce serait l'alerte. On évite cela. Alors, on dote l'Église de ce qu'il lui faut comme œuvre pour n'être pas critiquée. On donne à l'Église des œuvres qui sont des œuvres sociales, peut-être, mais qui ne sont pas les œuvres premières, les œuvres de l'amour. Les premières œuvres jaillissent d'elle-même par la puissance de l'amour. Et ces œuvres correspondent à ce que l'apôtre Paul nous dit dans le chapitre 5 des Galates et au verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante. Voilà ce qui a de la valeur. Mais l'incirconcision ou la circoncision, le respect des rites, tout cela, de certaines choses, certes, il y a de la valeur là, mais il y aura de la valeur s'il y a l'amour. S'il n'y a pas l'amour, tout cela sera dénué de toute valeur. La Sainte Cène est dénuée de toute valeur, bien que donnée par le Seigneur, s'il n'y a pas l'amour. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, dit encore le Seigneur au verset 5. Sinon, je viendrai à toi. C'est donc grave. C'est très grave. L'Église en est venue à vivre et à agir sur des consignes et sur des habitudes qu'elle s'est données, et l'amour divin n'est plus là pour fournir sa sève et son impulsion de vie. Tout ce qui se fait dans l'Église, par l'Église, est devenu humain et mort, 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 quant au dessein de Dieu qui est le dessein, un dessein d'éternité. Au lieu d'être l'action du Seigneur lui-même à travers l'Église, les œuvres secondes sont des œuvres morales et ne disposent plus que de l'homme lui-même, l'homme lui-même. C'est le christianisme routinier. La relation avec le Seigneur s'est donc éteinte, car la relation avec le Seigneur est une relation d'amour. Lisons bien l'évangile de Jean, c'est une relation d'amour. Si cet amour n'est pas là, il n'y a plus de relation. C'est le propre de l'amour que d'établir cette relation. La foi porte vers le Seigneur afin que l'amour immédiatement entre en action, remplisse les cœurs, et qu'il y ait cette relation, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Et puis le Seigneur dira, le Père m'aime, et il aime le Père. Cet amour entre le Père et le Fils, voilà ce que Jésus met en avant, voilà ce qu'il montre, ce qu'il dit, il vous faut cela. Cet amour qui m'unit au Père, qui unit le Père à son Fils, voilà ce qu'il vous faut à vous, mes disciples, pour être unis à moi, ce même amour. Et si ce même amour n'est pas, où est la relation? Elle n'est plus. Elle n'est plus une relation d'amour. Vrai. Alors, le maintien du chandelier pose une question. Le maintien du chandelier ne sera bientôt plus possible. La flamme va être retirée. Le chandelier s'est éteint. La flamme, donc, ne brille plus et le chandelier sera porté ailleurs, rallumé et donné à d'autres. En réalité, la lumière est déjà, pour ainsi dire, éteinte dans cette église. Alors à quoi sert un chandelier s'il ne brille plus? Pour ôter le chandelier, que fera le Seigneur? Sinon, lisons bien, entendons bien ce qu'il dit, sinon je viendrai à toi, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alors le Seigneur viendra pour ôter le chandelier. Il viendra, ce qui veut dire qu'il fera une démarche particulière pour cela. Le Seigneur viendra lui-même vers l'Église, d'une manière particulière, pour fermer une porte, pas pour l'ouvrir, pour la fermer. Pour signifier qu'il ne sera plus celui qui travaille avec ses disciples, pour rompre, pour montrer qu'il préfère qu'on ne regarde pas comme lui appartenant, une église qui suit des traditions, mais qui n'a plus l'amour de Dieu en elle. Le Seigneur avertit qu'il viendra, donc, viendra spécialement. Et cette venue qu'il indique là, c'est une venue pour juger l'église. Il viendra, ce qui veut dire, je viens pour un jugement. Il vient juger cette Église sans attendre la fin de la dispensation de la grâce. Et il viendra pour retirer sa présence, le chandelier. Il retirera sa présence en esprit et son approbation, et cette Église pourra continuer de se réunir, elle sera réprouvée. 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est donc une chose qui peut arriver dans l'Église, cela, à moins que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. La pressante exhortation du Seigneur a donc pour objet d'intimer, on peut dire cela, d'intimer à cette Église cette pressante exhortation de revenir aux premières œuvres en revenant au premier amour par le moyen d'une profonde et réelle repentance. L'Église devrait, quand il le faut, quand le Seigneur avertit, s'humilier, revenir au feu du premier amour sans lequel il n'est pas d'Église qui puisse se dire l'Église de Jésus-Christ, vous le voyez. Tu as pourtant ceci, dit le Seigneur au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. J'ai dit que ces œuvres étaient assez peu connues, mais enfin nous savons qu'elles étaient des comportements funestes, et nous les connaissons un peu à travers les épîtres, la deuxième épître de l'apôtre Pierre et l'épître de Jude. C'était le fait de Jean qui, affichant une prétendue spiritualité, quoique vivant charnellement, livré à toute sensualité, sous le prétexte qu'elle ne peut pas souiller l'esprit et que l'Église n'est pas sous la loi. Cela a été une très grave hérésie des premiers temps de l'Église. Nous ne sommes pas sous la loi, et ce que nous faisons dans la chair, ça ne peut pas souiller l'esprit. On se demande par quelle aberration on pouvait en arriver à cette conclusion, mais enfin, c'était cette abominable doctrine. Dans l'Église d'Éphèse, le Seigneur constate le contraste. Il y a un contraste étonnant entre cette juste rigueur du côté des œuvres des Nicolaïtes, rigueur qui plaît au Seigneur et qui l'approuve, et les effets désastreux de l'abandon du premier amour. Jésus constate ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est véritablement cela, notamment, c'est que l'Église n'est pas tombée, cette Église n'est pas tombée dans les souillures de la chair. Elle n'a pas glissé avec les Nicolaïtes sur cette pente abominable. Elle a rejeté cette doctrine diabolique. Oui, mais attention, Jésus constate ce qui est bon sans toutefois accepter de compenser une chose par l'autre. Il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas de compensation. Et nous retrouvons le principe qui nous est donné par les Écritures, la transgression d'un seul des commandements équivaut à la transgression totale de la loi. Par conséquent, même s'il y a des bonnes choses, le Seigneur le sait, mais elles ne compensent pas ce qui est mauvais. Il faut absolument revenir sur ce qui est mauvais. L'Église d'Éphèse est donc plutôt régie par une sorte de loi, la loi de la rigueur, la loi des habitudes, que par l'amour et la grâce de Dieu. Elle a des conceptions bonnes encore, mais elle a fermé la source de la grâce, car la source de la grâce ne peut rester ouverte que si l'amour est là, s'il y a la flamme de l'amour. Quelle leçon pour nous et pour chacun de nous. Et nous arrivons au solennel avertissement de la fin et à la promesse qui le suit. Au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Tant de sages paroles sont prononcées et, hélas, sitôt abandonnées. Oui, on les trouve bonnes, ces paroles, et elles réjouissent même, mais elles ne pénètrent pas intérieurement, elles ne sont pas gardées. Or, le Seigneur a bien appuyé sur cela, celui qui garde mes paroles, celui qui garde mes commandements. Lui qui en fait quelque chose intérieurement dans l'être intérieur. Il faut que les paroles soient donc suivies des faits, d'où la pressante recommandation du Seigneur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Autrement dit, que celui qui a l'ouïe de la foi ardente et qui est avide de connaître, assoiffé de la parole de Dieu, assoiffé d'amour, et qui garde, que celui-là reçoive les avertissements de cette lettre, car ils sont adressés aux églises, à UX, aux églises de tous les temps et de tous les lieux. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Toujours, le Seigneur termine par une promesse, mais une promesse qui ne va qu'à ceux qui sont vainqueurs, à celui qui vaincra tout ce qui le détourne de la vraie foi et de l'amour. Tout le verset 7 abandonne le langage collectif pour s'adresser individuellement à certains des membres de l'Église, à celui qui vaincra. Voyez-vous, là ce n'est plus collectif. Jusqu'au-dessus, n'est-ce pas, souviens-toi, c'était l'Église, ça. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les hommes. Ça, c'était l'Église, tu, c'était l'Église. Mais maintenant, c'est individuel, à celui qui vaincra. Si l'ensemble n'écoute pas, si la communauté dans sa totalité n'écoute pas et ne suit pas, il s'en trouvera cependant certains qui entendront et se repentiront et se replaceront sur le chemin de la victoire. Ça, le Seigneur le dira toujours. Ce n'est pas parce que tu vois qu'il y a du mal dans la communauté où tu es, que tu vois un glissement, tu constates quelque chose qui attriste ton cœur et tu ne te sens pas, appelé dans cette voie du mal. Tu te sens au contraire bien retenu, bien tenu à ton Seigneur. Eh bien, toi, persiste et continue sur la voie de la victoire. Alors là, tu recueilleras la promesse du Seigneur. Les vainqueurs, donc seuls les vainqueurs, auront part à la vie véritable. Seuls les vainqueurs auront part à la vie véritable. C'est Jésus-Christ gardé qui remet en possession de ce que l'homme a perdu en Éden, l'arbre de vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. la communion est une relation d'amour, mais une relation de vie indispensable à la possession de la vie. Amen.